tour qui avance. Il y a des bonnes choses, puis aussi des combats, des choses difficiles pour plusieurs d'entre nous. Et ce matin, on va se pencher ensemble vers Jésus pour pouvoir vraiment l'écouter. Je vous invite vraiment à faire cette démarche de foi, de ne pas être distrait, de ne pas être tourné vers les situations, vers les difficultés. On les remet au Seigneur et de vraiment écouter sa parole. Parce que je crois que c'est justement quand c'est dans la vérité, hein, on ne peut pas jouer à l'église, hein, on peut faire des fois des petites choses comme ça, c'est bien, on est super, grande convention, tout va bien, on est bien. Mais quand il y a des difficultés, quand il y a les combats, quand on a son épouse à l'hôpital, quand on a vraiment une douleur physique, etc., là au cœur, ou qu'on a appris des résultats médicaux négatifs, et on en a plusieurs hein, dans le réseau maintenant qui ont... Voilà, ça peut être un peu vraiment une difficulté, une opposition. Ben, c'est à ce moment-là que notre foi est vraiment testée. Dire finalement, c'est bien joli hein, quand tout va bien, il n'y a pas de mérite, n'importe qui, même les non-chrétiens, même les gens sans espérance, ils vivent très bien quand il y a un bon repas au restaurant ou des vacances. Ce n'est pas difficile. Hein. On peut encore s'engueuler, on peut encore même trouver dans ces temps-là des occasions que ça soit difficile. Mais en fait, quand c'est difficile, vraiment, quand il y a un combat, eh ben, c'est là qu'il faut qu'on se dise, Seigneur, peu rien, je veux me pencher sur ton cœur. J'avais à cœur de vous partager cette image d'un tableau. Je n'ai pas pu la trouver pour la projeter, mais vous pouvez l'imaginer. L'imagination est des fois encore plus puissante que la réalité. Ce verset biblique qui dit que Jean se penchait sur le sein de Jésus, se tenait sur sa poitrine. Et là, il entendait des choses, il vivait des choses. Et dans les circonstances difficiles, ben, c'est tout ce qu'on peut faire, c'est se pencher sur la poitrine, sur le cœur de Jésus, et dire « Seigneur, qu'est-ce que tu me dis ?» On veut avancer dans l'authenticité, dans la vérité, et pour ça, on a vraiment besoin d'entendre Jésus. Je pense qu'on va aussi dans des temps peut-être plus difficiles globalement dans notre monde qui met en question le pouvoir, à tort ou à raison, où tous les repères, je lisais un texte qui était très pertinent, qui disait « Pourquoi les gens sont comme ça fatigués aujourd'hui ?» Et montrer comment, quand on veut se libérer des habitudes, des règles, des conventions, combien ça nous fatigue. Alors, il y a un côté positif, hein, quand vous avez une société où le mari a servi sa femme, ou mari sa fille, ou est le grand potentat, c'est difficile, et je pense qu'il faut changer ces choses. Mais à l'inverse, quand il n'y a plus de règles, quand il n'y a plus de normes sociales, quand il n'y a plus une habitude culturelle, familiale, où on sait comment se comporter, avec des codes, et ben tout est ouvert, tout est possible. Et ce n'était pas un évangélique pasteur, hein, c'était un psychologue, je ne sais pas quoi, il disait, mais c'est hyper fatigant, parce que pour chaque situation, vous devez vous situer, vous devez décider. Hein. Si bon, tout le monde, je donne un exemple simple, hein, tout le monde sait, quand on arrive chez quelqu'un, c'est la règle tout le monde, on se met pieds nus. C'est la règle culturelle du pays. Ben, tout le monde fait, personne ne se pose des questions. Si vous êtes un peu dans l'entrée, vous ne savez pas, chez les gens ça se fait, vous allez passer pour un gros malhonnête de ne pas enlever vos souliers, puis c'est d'autres, il n'y a aucun problème, on peut garder ses souliers, on dit, mais non, c'est bon, il y a du carrelage, etc. Ben, c'est un petit exemple. Vous dites, eh bien, on ne sait pas. Donc, si on ne nous dit rien, on est un peu tendu. Est-ce que finalement, je n'ai pas envie d'enlever mes souliers parce que je n'ai pas lavé mes pieds ce matin, et puis je ne vais pas peut-être tout à fait à l'aise, je sens un peu des pieds. Comment je vais passer pour un gros malhonnête ou pas, ça se fait, ça ne se fait pas, qu'est-ce qui est le pire, etc. Et puis plein d'autres endroits. Ah ben vous l'avez trouvé en plus, ouais, c'est super, il n'y a qu'à demander. Puis ça serait bien si pour la guérison ça se passait la même chose, si Dieu peut faire comme ça quand on prie aussi, ça agit tout de suite. Là. Vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est un petit exemple, il y a plein de normes sociales aujourd'hui où l'être humain s'est plus situé, il n'y a plus des règles strictes. Et quelque part c'est bien, mais de l'autre côté c'est fatigant, c'est harassant, parce que le patron, il est désécurisé dans son rôle de patron. L'ouvrier... Il ne sait plus ce qu'il doit faire ou pas, si son patron est abuseur ou si c'est un bon patron. On ne sait plus. Le père de famille, la mère de famille, les enfants, tout ça. Et on est dans un monde qui est complètement éclaté maintenant, qui coupe ses racines judéo-chrétiennes, qui ne sait pas trop où il va. Et c'est extrêmement fatigant, parce qu'on doit tout le temps se resituer, on doit tout le temps décider où on va. Et dans ce temps-là, je vous invite ce matin à regarder quelques perles de l'Écriture où Jésus, nous est-il dit, prit à part ses disciples et leur dit, trois petits points. Donc on va voir sur plusieurs dimanches, 6 ou 7 perles dans l'évangile de Marc, où chaque fois Jésus met ceci, Jésus prit à part ses disciples et leur dit. Alors, on va commencer cette étude avec Marc 3. Je dirais plusieurs textes bibliques, si vous voulez juste les noter pour les reprendre chez vous, puis d'autres, on les lira. Donc, le premier qu'on va lire ensemble, parce qu'il est très important, qui a un peu un socle sur tout cet enseignement sur les perles de Jésus, et c'est vraiment précieux ce matin qu'on puisse poser notre cœur, notre oreille, même comme ça, là, où notre corps est posé sur le cœur de Jésus pour l'entendre de manière particulière. Marc 3, 13 à 15. Plusieurs de ces perles, je ne les ai pas inventées, bon, je ne les ai pas inventées ni l'orateur que je vais vous mentionner, puisqu'elles sont dans la Bible, mais ce n'est pas moi qui ai trouvé ce truc, c'est quand on a fait l'école de relations d'aide, il y a bien des années avec Catherine, la jeunesse en mission, qu'un orateur était venu, je ne me rappelle plus qui il était, mais je me rappelle très bien par contre qu'il avait attiré notre attention, ce que je n'avais jamais vu, sur le fait qu'il y a des perles où Jésus parle aux foules, Jésus parle à tel et tel, à madame chose, à monsieur machin, à truc, etc., ou à l'officier romain. Et puis, une troisième catégorie, donc, à part Jésus qui parle à tel ou tel, à part Jésus qui parle aux foules, troisième catégorie de type de discours de Jésus, c'est qu'il prend ses disciples à part et leur dit à eux. Et vous êtes, ce matin, nous sommes les disciples de Jésus. Nous sommes ceux qui veulent être près de son cœur. Et donc, il y a un discours particulier qui n'est pas celui des foules, qui n'est pas celui au peuple juif, qui n'est pas celui à monsieur ou madame la Samaritaine ou monsieur l'officier romain, mais qui est pour les disciples. Et la base de cet enseignement est tirée de Marc 3, 13 à 15, où il est dit ceci. Jésus monta sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Alors je vous relis maintenant ce texte, comment on le lit ou comment on l'entend, ou probablement comment vous l'auriez cité plus ou moins par cœur. Vous allez voir la différence. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 et il les envoya prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Quelle est la différence? Merci Océane. J'ai oublié cette petite phrase entre deux virgules. Pour les avoir avec lui, virgule, il les envoya chasser. Et si on passe vite là-dessus, on a raté l'essentiel. Pourquoi Jésus a appelé ses disciples? Pour dire, ben, pour guérir, pour chasser les démons, pour les enseigner, pour les former, pour que ça transforme la terre, pour qu'après sa résurrection, il y ait une suite, pour créer l'Église. On peut imaginer plein de choses. Mais d'abord, il les appela, il les établit, nomination, installation, reconnaissance. Hein, vous voyez, ceux qui disent l'Église, la structure, l'institution, ça vaut rien, c'est du pipi de chat. Quand on commence déjà la première phrase de Jésus, il les établit. Hein, il ne fait pas juste comme ça, qui veut, comment ça. Non, il y a une reconnaissance, il y a un processus, il y a même là une institution déjà. Jésus établit, il en choisit certains, etc. Pour les avoir avec lui. Alors, l'inverse, ça serait de mettre un point après ça. Vous voyez, je veux dire, il y en a de ceux aussi qui sont comme ça. Il les appelle pour les avoir avec lui, point, puis on fait des réunions. Puis ça, on sait faire. On fait des réunions, on fait des conventions, on fait des études bibliques, on prie, on jeûne, tout ça, et puis point, c'est aussi faux. C'est pour, exactement, c'est pour les envoyer, c'est pour enseigner, prêcher, guérir, consoler, encourager, établir l'Église, tout ce que vous voulez. Mais d'abord, pour les avoir avec lui. Et j'aimerais faire ce matin un premier parcours avec quelques perles, principalement dans l'évangile de Marc, où on va être attentif quand, justement, il les prend pour les avoir avec lui. Qu'est-ce qu'il leur dit à eux? Qu'est-ce qu'il nous dit à nous ce matin, qui n'est pas pour les foules, qui n'est pas pour les juifs, qui n'est pas pour madame machin, monsieur, etc. Marc 4, 34 nous dit ceci, « En privé, il expliquait tout à ceux qui étaient ses disciples. » Marc 4, 34. Il expliquait tout à ceux qui étaient ses disciples. Aux foules, il raconte des histoires, qu'ils ne comprennent d'ailleurs pas toujours, avec les paraboles qui sont compliquées encore pour nous, ses disciples, mais il dit qu'il les prenait à part et il donnait des petites notes supplémentaires qu'il donnait qu'à eux, qu'il ne donnait pas aux foules. Il donnait ce petit plus. Est-ce que tu connais ce matin, mon cher ami, mon cher frère et sœur, membre de l'Église, du réseau ou visiteur? Est-ce que tu connais les petits plus que Jésus enseigne, qui ne sont pas pour les foules ou pour les autres, mais pour toi son disciple? C'est important de connaître ça. Alors tu vas me dire, oui, mais moi, justement, j'entends pas la voix de Jésus. Justement, c'est mon problème. Tu fais bien, Florian, de le mentionner, mais c'est mon problème depuis des années. Il y a de ceux qui disent, Dieu m'a dit, il y a de ceux qui reçoivent des paroles. Moi, je ne reçois rien. Eh bien, ce matin, la bonne nouvelle, c'est que c'est dans la Bible. Il n'y a pas besoin de chercher ailleurs. Tu n'as pas besoin d'avoir une prophétie, tu n'as même pas besoin d'avoir une parole précise, tu n'as même pas besoin de te forcer dans ton recueillement personnel comme certains de ressentir des choses. Non. Juste ce matin, ça va être tout simple, c'est marqué déjà dans la Bible, il a déjà prévu pour toi, pour moi, il y a 2000 ans, pour ceux qui veulent être ses disciples, il y a 6 ou 7 perles, il n'y en a pas 300, ça va être assez simple. Mais il y en a 6 ou 7 fondamentales des évangiles qu'on va repérer et qu'on va essayer de vivre. Et je vous avertis tout de suite, c'est des bombes. Ce n'est pas des petites caresses, moi je t'aime bien, t'es ma fille bien-aimée. Il y a ça dans la Bible, on le dit souvent et c'est bien, on ne l'a pas assez dit à une époque, maintenant on l'a dit beaucoup, mais c'est des bombes. Quand il prend ses disciples, les 6 fois qu'il parle en disant « je prends mes disciples et je leur dis ça », vous verrez, c'est une radicalité folle. Il demande tout. Donc voilà, préparons-nous, moi ça me dérange aussi, hein. Donc, ça, c'est Marc 4, 34. Un peu plus loin, Marc 9, 30 et 31, il dit, lors d'une circonstance précise de Jésus, on ne va pas le prendre, mais je le mentionne juste, pour ceux qui veulent noter, Marc 9, 30 à 31, Jésus ne voulait pas que les foules sachent où il était, donc il se cache pour les foules, parce qu'il désirait enseigner ses disciples. À un moment donné, il dit que les foules le fatiguent un peu, il ne le dit pas comme ça, c'est moi qui le dis, mais il se cache, c'est clairement dit dans le texte, qu'il ne veut pas que la foule sache où il est. On pourrait dire, c'est pour avoir du repos, c'est pour être tranquille. Non, c'est mentionné justement pour un de ses temps, pour avoir ses disciples avec lui, tout près de lui. Sur cette manière de faire, j'aimerais dire que dans notre église, dans notre réseau, les responsables, nous souhaitons vivre cela. Avoir les temps comme une priorité, au même titre que d'annoncer le salut, de faire des rencontres d'évangélisation. Nous voulons prendre ces temps de retraite. C'est pour ça que chaque année, il y a une retraite ouverte à tous. Il y a aussi une retraite des équipiers, où on va 4 jours sur la montagne, prier, jeûner. C'est une priorité pour moi et pour nos équipiers. Et il y a aussi des temps de repas communautaires. Il y a des temps fraternels ou des temps de café. C'est autant important, puisque Jésus lui-même l'a vécu avec ses disciples. Des moments, il ne veut pas qu'il y ait des foules, il veut se retirer, prendre du temps, prendre du bon temps. Et je vous encourage. J'ai appris cette semaine, et ça m'a beaucoup réjoui, on va nommer personne, mais plusieurs s'étaient invités les uns chez les autres. Des gens peut-être qu'on entend moins, ou qui prêchent jamais, ou qui sont comme ça, ont invité une autre famille de l'église. Mais c'est super! Invitons-nous! Puis il n'y a pas besoin de faire un gros repas, il n'y a pas besoin de faire... pour un café, un dessert, un petit temps ensemble, invitons-nous les uns les autres. Vivons ces temps de fraternité si on veut être une église crédible. Puis si on n'a pas de réponse, mais c'est mieux. Non, pas tout à fait mieux, il ne faut pas que j'exagère, mais je veux dire, il y a des témoins de Jéhovah, il y a des sectes, il y a plein de gens qui ont les réponses à tout. Si vous n'avez pas de réponse, ce n'est pas grave. Ayez juste votre cœur, votre amour. Avoir quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui a une difficulté, l'inviter, lui faire un téléphone, un SMS, pas pour lui dire comment le mal agit, comment Dieu répond au mal avec une grande étude théologique, vous n'en êtes pas capable, moi non plus, puis ceux qui en sont capables, ils se trompent. Donc, c'est assez simple. Mais juste être là. Juste être là. Juste avoir un contact, une invitation. Et ça, c'est à portée de tous. Une balade, un café, de Edmé jusqu'au plus jeune adolescent avec d'autres adolescents. On peut faire ça. Extraordinaire. Jésus nous montre ce chemin. Alors, quand on prend l'évangile comme ça en suivant, on pourrait déjà s'arrêter aux trois chapitres, 5, 6, 7. Ce n'est pas les premiers chapitres, puisque le premier chapitre, c'est le chapitre 1. Vous avez compris. Mais les trois premiers chapitres qui ont cette attitude où Jésus enseigne ses disciples, c'est le fameux sermon sur la montagne, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, qu'on ne va pas apprendre parce qu'il faudrait étudier en soi. Et il y a d'excellents livres, d'excellentes prédications sur le sermon sur la montagne, qui est tout un traité théologique où en fait Jésus à la fois enseigne les foules et à la fois enseigne ses disciples comme un socle de base sur la vie. Mais on va aller un petit peu plus loin et prendre vraiment les perles spécifiques où il parle à ses disciples. La première perle que j'aimerais mentionner, on ne va pas la lire, celle-là, elle est au fond assez courte et assez simple à comprendre, mais pas à vivre. C'est Marc 8, 1. Jésus, Marc 8, 1, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule. » Et là vient le texte très connu, de la multiplication des pains. Comme pour l'invitation de Jésus, il les envoya prêcher, chasser des démons, on oublie pour les prendre avec lui. Comme le texte pour la multiplication des pains, on entend tout un tas de beaux prédications, tout un tas de belles enseignements, on peut dire plein de choses, et c'est super. On n'enlève rien à ça, on ne va pas en parler ce matin de cette multiplication des pains. Ce que j'aimerais juste relever, c'est qu'avant de faire sa grande conférence de démonstration de miracles publics pour que ça touche les gens et que ça interpelle, et on peut en prêcher à l'infini, comment passer des pourquoi au comment, etc., cette petite phrase de Jésus, Jésus, Marc 8:1, ayant appelé ses disciples, leur dit. Il ne parle pas à la foule, là. Il n'est pas en train de faire miracle. Il dit, je suis, juste, venez, je suis ému de compassion pour cette foule. Donc, tout ce que je vais faire, vous allez voir, là, il va y avoir quelque chose de fort. Hein. Il va enseigner, il y aura un miracle, il y a plein de choses, il y a pris ses disciples, il dit, juste que vous sachiez. Alors là, il ne l'a pas dit, mais on peut imaginer qu'il dit, ce n'est pas pour du spectacle. Gaffez-vous quand vous raconterez ce récit. Ce n'est pas même peut-être pour faire la même chose. Ce n'est pas pour imiter comme un truc. Ce n'est pas tout ça, ça, j'explique ça, ça. Il a peut-être expliqué, moi je ne sais pas qu'est-ce qu'il a passé, tout n'est pas dit dans la Bible. Mais il a pris ses disciples à part. Il a dit, sachez une chose. Il va y avoir quelque chose de fort. Et je veux toujours, toujours que vous vous souveniez une chose, je vous prends à part pour vous le dire. Attention, attention. Si tout ça est fait, ben je suis ému de compassion pour cette foule. Voilà pourquoi je vais faire ça. C'est le fondement, c'est la première perle qu'on doit entendre ce matin. Toute action chrétienne du disciple doit trouver son fondement dans ému de compassion. Si vous faites autre chose, c'est fichu. C'est pas un sage zen qui va expliquer une technique de respiration quand on a faim pour se priver de nourriture, parce qu'on a oublié les courses, hein. Donc on va expliquer une technique de respiration, par exemple, pour pouvoir supporter ça. C'est pas un truc pour dire, mais quand même, vous n'avez qu'à penser qu'à Jésus, qu'à l'évangile, qu'à tout ça, tant pis si on n'a pas mangé, quand même. Là, il y aurait pu dire plein de choses quand on n'a pas de pain. Ou bien de grandes justifications, du mystère du mal, rien. Il dit juste, sachez que moi, Jésus, fils de Dieu, moi qui suis le Messie d'Israël, que vous attendez pour chasser les Romains, juste une chose, souvenez-vous, si je fais ça, c'est que je suis touché dans mes tripes. 10 fois dans les évangiles, ce mot est employé. 1 fois pour parler des entrailles physiques, c'est-à-dire des boyaux, hein, c'est ça le terme vraiment technique, hein, et 9 fois pour parler de l'élan du cœur de Jésus ou de Dieu envers quelqu'un qui souffre. C'est tellement beau. On peut voir le spectacle, on peut voir des miracles, des choses extraordinaires, c'est bien. Mais Jésus, nous est-il dit, la base, le socle, c'est d'être ému de compassion. Il est touché dans ses entrailles. Alors c'est intéressant parce que, est-ce qu'on a à le vivre nous, c'est juste Jésus? Alors Colossiens 3:12 nous dit ceci, peut-être qu'on peut le projeter parce que c'est intéressant. Colossiens 3:12 nous dit ceci, comme des saints, ou comme des disciples, comme des saints, saints ça veut dire mis à part, vous savez, hein, comme des saints mis à part, revêtez-vous, et de nouveau ce même terme donc, que Jésus a dit avant la multiplication des pains, revêtez-vous de ces entrailles, ces boyaux, ces viscères très exactement, ce qu'il y a vraiment au fond de nous, de miséricorde. Là je vais prendre un petit extrait du pasteur William Reichen, que je ne connais pas, mais que j'ai trouvé dans des notes très intéressantes, comment il commente ce texte de Colossiens 3:12. Vous pouvez regarder ce qu'ont des Bibles, comment est traduit ce terme d'entraille de miséricorde. Est-ce qu'on peut avoir quelques citations là dans celle que projetée, c'est marqué quoi? Tu peux redescendre. Ça c'est marqué entraille de miséricorde. Tu peux le redescendre. Voilà, les choses dont... Non, t'es où? Juste le 12. Uniquement le 12. Voilà. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles. D'accord. Ça, c'est la version vraie. D'accord? Eh bien, merci. C'est la bonne. Qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles? Vas-y plus fort.
La croix, c'est
courant. Oui. Juste entrailles de miséricorde. Comment ça? Oui, c'est ça. C'est bien ça le problème que tu relèves. Ils ont oublié les entrailles. Ils ont mis quoi à la place? Revêtez-vous. Voilà, affectueuse bonté. Attends, pas tous en même temps.
Et bienveillance.
Ouais, non, mais ça, c'est autre chose. Mais juste, le premier terme, c'est quoi? Affectueuse bonté.
Ouais, sentiment de compassion.
Sentiment de compassion.
Remettez-vous d'ardente compassion.
Ardente compassion, vous voyez, hein, tout ce qu'ils ont cherché pour ne pas dire entrailles. Ah, d'accord. Il y a encore d'autres? Vous avez entendu ça? Tendresse magnanime. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas inventé, les traducteurs, pour ne pas mettre le mot entrailles? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit peu plus trop à la mode de parler des entrailles. Hein, on parle des entrailles d'un poisson, peut-être, pour lire La Bonne Aventure dans Astérix, mais voilà. Mais c'est bien les entrailles. Et en fait, ce qui est compliqué, ce n'est pas de traduire, comme les traductions modernes ont tout essayé d'enlever entrailles de miséricorde, c'est ce second non révisé qui le garde, hein, entrailles 1910, entrailles de miséricorde. Mais en fait, ce qui est dur, ce n'est pas de le traduire, c'est de le vivre. On comprend bien, tous ces termes-là, ils sont justes. Hein, ardente compassion, magnanimité, c'est d'être touché, c'est d'être bouleversé, mais c'est vraiment Jésus qui est touché aux entrailles. Une vraie difficulté, non pas linguistique, mais une vraie difficulté de le vivre en pratique. Ce fameux William Reichen, pasteur, dit ça sur le stress qui peut être provoqué par le caractère des disciples, le caractère des saints dans une église. Alors, je vous lis un petit extrait parce que j'ai trouvé ça très joli et peut-être qu'on va se reconnaître. « Oui, nous nous irritons contre frère qui est mou dans l'église, mais nous nous plaignons aussi de celui qui est agressif. Le frère parlant facilement et d'abondance nous énerve, comme celui d'ailleurs qui ne dessert pas les lèvres. Nous n'apprécions pas toujours les chrétiens qui rient souvent, et pas non plus ceux qui ont l'air sévère et sérieux. C'est l'égaliste pour lequel tout est interdit, c'est insupportable, mais quel lamentable représentant du royaume de Dieu quand il se croit tout permis. Ces croyants sentimentaux qui nous serrent la main avec tant d'effusion en arrivant au culte sont parfois bien désagréables. Mais ceux qui oublient de nous saluer ou nous saluent très froidement, quel insupport, etc., etc., ça continue. Certaines personnes de nos assemblées peuvent nous indigner par une tenue vestimentaire négligée, alors que d'autres, toujours tirées à quatre épingles, habillées à la dernière mode, nous paraissent franchement mondains. Faut-il parler de ceux qui nous exaspèrent par leur conversation futile ou leur patois de Canaan, et de ceux qui montrent pas le moindre intérêt pour nous, nos familles, nos circonstances adverses, ou alors ceux qui veulent tout savoir de nous. On est vraiment comme ça. Ce n'est pas la miséricorde, on n'est pas vraiment avec des entrailles de miséricorde quand on rencontre les frères. Il faut bien reconnaître avec ces exemples, qu'est-ce qui nous anime. Toujours critique. On a toujours un truc à dire, à voir. La louange était trop forte, trop courte, trop longue, trop ci, trop ça, pas en rythme. C'est peut-être vrai. Mais vous voyez ce que je veux dire? On est toujours comme ça. Il y a toujours l'autre, il est ou trop court ou trop long, on nous salue trop, penser, nous invite trop. Puis Jésus dit, tu veux être mon disciple, avant tout, est-ce que tu as ces entrailles de miséricorde? Moi, ça me dérange, ça me frappe, parce que je ne l'ai pas. Spontanément, en tout cas pas. Il faut faire un sacré effort pour arriver aux entrailles de miséricorde qui devraient être naturelles, qui devraient être là, comme le caractère de Dieu et de Jésus. Alors, il continue, ce pasteur, parce qu'il trouve des choses intéressantes, il dit, c'est dit, revêtez-vous. Vous avez vu, il a disparu, mais vous l'avez dans le cœur. Hein. C'est dit, comme des saints, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. C'est-à-dire, revêtez-vous, vous avez vu? Vous voyez la différence, revêtez-vous, c'est quelque chose qu'on reçoit, pas quelque chose qu'on fabrique. Vous voyez la différence? Revêtez-vous, c'est quelque chose à prendre, quelque chose à enfiler, c'est une bonne nouvelle, c'est pas quelque chose que j'ai à fabriquer, c'est pas quelque chose que j'ai à avoir plus ou moins en moi, c'est un vêtement. Revêtez-vous des entrailles de miséricorde. Et ce pasteur dit, donc c'est quelque chose de surnaturel pour nous supporter les uns les autres et pour nous aimer. Arrêtez de faire des efforts pour être moins critique avec les frères, vous allez être encore plus, c'est encore un truc que vous allez vous dire, et voyez, c'est dire. Mais chercher à dire, bah, Seigneur, oui, je suis critique. Oui, ce n'est pas les entrailles de miséricorde que j'ai avant tout. Je pense d'abord à mon petit confort, que je ne suis pas bien, ou qu'on ne m'a pas fait ci, ou qu'on ne m'a pas salué. Mais je veux bien me revêtir de ton menton. Je veux bien me revêtir de ton caractère. Je veux bien recevoir quelque chose. Et au lieu de se battre contre mon esprit critique, ou contre quelque chose comme ça, ou contre mon sentiment de rejet, ou contre mes blessures, etc. Et quand on se bat contre, quand on est tourné vers nous-mêmes, on est encore plus égocentrique et tourné vers nous. Mais au contraire, s'ouvrir, respirer, accueillir des seigneurs. Ben oui, je suis comme ça, mais Seigneur, toi, tu veux me revêtir. Toi, tu veux me donner, revêtez-vous de ces entrailles de miséricorde. Et ce pasteur continue en disant qu'il y a des organes chocs dans le corps qui reçoivent tous les coups. Chez l'un, c'est l'estomac. Chez l'autre, c'est le foie. Chez l'autre, c'est le cerveau. Mais il y a un anti-choc à ces organes chocs, c'est l'entraille de miséricorde reçue de Dieu. C'est magnifique, un jour des saints. Il y a des organes chocs qui prennent tous les chocs. Et vous pouvez savoir, chez vous, c'est peut-être le foie, hein, c'est peut-être la tête, la pensée, etc., où on est atteint, où c'est là que ça bute, physiquement, psychiquement. On a tous nos organes de choc. Mais il y a un anti-choc, les entrailles de miséricorde. Il s'agit donc de laisser Dieu nous revêtir. Et il rajoute, chaque jour, à chaque instant, comme une attitude, une position constante. Tellement vrai. Donc, ne nous soucions pas de la traduction de ce terme dans nos versions, mais soucions-nous de l'application. Soucions-nous de dire dans cette première perle, oui, Seigneur, je suis d'accord, je veux recevoir. Pour être ton disciple, ces entrailles de miséricorde. Comme toi, tu as fondé ton action. Je reçois les entrailles de miséricorde. Si je parlais toutes les langues des hommes et des anges, si j'ai le don de prophétie, la science de tous les mystères, la connaissance, toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, et on le recherche tous et on prie souvent pour ça, même si je distribuais tous mes biens, même si j'étais brûlé, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas les entrailles de miséricorde, pas comme un niveau spirituel, mais comme un cadeau de Dieu que je veux choisir de revêtir, je ne suis rien. Qu'un tambour qui fait du bruit. Voilà, pour cette première peine, je vous invite à vous lever, faire une petite pause dans le message. Et ceux qui sont d'accord, on va prier pour recevoir ces entrailles de miséricorde. Puis on est prêt à attendre que Dieu se manifeste, d'accord ? Hein? Donc si on ne continue pas le message et qu'on ne prend qu'une perle ce matin, ça va aussi. Hein? Si on en prend une deuxième, c'est bien. Si on prend les six, puis qu'on reste jusqu'à 15 heures, parce que Dieu nous le dit, comme vous aurez tous des entrailles de miséricorde, vous serez tous d'accord de jeûner et puis de rester toute l'après-midi à l'écoute du Seigneur. Amen. Voilà, donc on prend ce temps de silence, on le met devant le Seigneur, et vous êtes complètement libre de prier ce que vous avez envie de prier, avec cette parole qui vient, que Jésus a fondé son action en disant, je prends à part mes disciples et je vous dis, mes amis, ce n'est pas les miracles, ce n'est pas les grandes choses qui comptent. Moi, je fais juste ça. Et j'aimerais tellement que vous entendiez ça si vous êtes penchés sur mon sein, sur mon oreille, sur ma poitrine. J'aimerais tellement, mes disciples, que vous entendiez ça. Je fais juste ça, je vous avertis, je vous informe. Tout ça qui va arriver, c'est parce que moi, Jésus, mes entrailles, ce qu'il y a de plus profond en moi, il est touché par la miséricorde, par la compassion. Quand on voit un homosexuel, quand il y a quelqu'un qui avorte, ce n'est pas de faire une doctrine, une théorie ou de dire la morale de je ne sais pas d'où. Mais c'est que nos cœurs, nos tripes soient émus, touchés, bouleversés d'abord par la compassion de Dieu. Et ça, c'est juste de recevoir ce manteau. Revêtez-vous, vous les saints. C'est Paul qui nous dit, hein, dans les Colossiens, on l'a lu, ça, c'est complètement lié à Jésus. C'est la parole de Dieu qui est en tout. Jésus dit ça et Paul nous dit, vous les saints, revêtez-vous de ces entrailles de miséricorde. Et là, si on le fait vraiment, Dieu peut bouleverser nos vies, Dieu peut bouleverser l'Église, Dieu peut bouleverser le monde. Si nous recevons ces entrailles de miséricorde. Donc prions personnellement. On se tient devant Dieu dans le silence, mais dans une prière, dans une attente intérieure, pour que le Saint-Esprit déverse ses vêtements de miséricorde au milieu de nous, sur nos cœurs. Ouvrons-nous pour recevoir.